Décryptage, Marie Cazadebé.
RGPD, quatre lettres dont vous allez beaucoup entendre parler, si ce n'est déjà fait, elles ont peut-être même déjà envahi vos écrans. RGPD pour Règlement Général sur la Protection des Données, une nouvelle réglementation européenne qui s'appliquera à partir de demain et qui vise, comme son nom l'indique, à protéger les données personnelles des citoyens européens. Florence Reynaud, membre de la CNIL, la Commission Française de l'Informatique et des Libertés.
L'idée du RGPD, c'est que les entreprises, que ce soit les entreprises privées, donc les pouvoirs publics, à partir du moment où ceux-ci collectent et utilisent des données personnelles, elles doivent respecter un certain nombre de garanties pour pouvoir protéger les données personnelles.
Les données personnelles, toutes ces informations que l'on donne, parfois sans s'en rendre compte, via un site internet, une appli ou autre. Alors que va changer ce règlement européen pour nous usagers, pour les entreprises qui utilisent des données? Et que dit-elle du secteur du numérique? Aborde-t-il un nouveau virage? Nos invités vont nous éclairer, bienvenue dans Décryptage. Deux invités en studio ce soir pour nous aider à comprendre le RGPD. Bonsoir Lucien Castex.
Bonsoir.
Vous êtes chercheur à l'université Sorbonne Nouvelle à Paris, spécialiste de la régulation du numérique. Vous êtes aussi secrétaire général de l'Internet Society France, une ONG spécialisée dans les droits numériques et la gouvernance de l'Internet. Et bonsoir Charles-Olivier Diebold.
Bonsoir.
Vous êtes président de My Company Files, entreprise spécialisée dans le partage collaboratif de fichiers professionnels. Alors le RGPD, je l'ai dit, c'est un règlement européen. Lucien Castex, à qui va-t-il s'appliquer? Quels utilisateurs et quelles sociétés? Est-ce que c'est un périmètre géographique qui est concerné?
Alors, ce qui est intéressant avec le RGPD, c'est justement que son champ d'application est particulièrement large. Si la définition des données personnelles, si la notion de traitement n'évolue pas beaucoup, d'une certaine manière, le champ d'application, lui, évolue, et c'est un champ d'application territorial élargi. C'est-à-dire qu'il s'applique, en fait, à toutes les entreprises qui sont établies dans un pays de l'Union européenne, mais également à tous les traitements, à tous les citoyens, quel que soit l'emplacement géographique de l'entreprise, dès lors qu'un citoyen européen est concerné, qu'il est l'objet d'un traitement par une entreprise ou qu'il soit ciblé.
Alors ça veut dire que un citoyen européen, par exemple moi, je vais voyager avec mon smartphone, je vais peut-être quitter l'Union européenne, je reste quand même protégé par le RGPD.
Alors le RGPD vous protège en effet dès lors que vous êtes citoyen européen et les entreprises doivent respecter un certain nombre de règles sur lesquelles on reviendra, qui s'appliquent dès lors dans ce cadre.
Pour les sociétés, vous dites celles qui sont basées en Europe, mais si on prend par exemple un exemple que tous nos auditeurs connaissent, c'est par exemple les réseaux sociaux, Facebook, est-ce que ça concerne finalement que les utilisateurs de Facebook en Europe ou finalement l'entreprise est obligée de l'appliquer à tous?
Alors ça concerne les utilisateurs de Facebook en Europe, mais se pose la question, effectivement, d'une, si ce n'est d'une harmonisation, se pose la question de différents régimes juridiques qu'il y aurait dans différents pays. Un régime en Europe qui, quelque part, c'est peut-être ce qu'on peut dire, est pionnier, est en avance et donne d'une certaine manière un avantage à l'Union européenne sur ce point. Et à côté de ça, d'autres régimes juridiques aux États-Unis, en Asie et ailleurs, qui effectivement n'appliquent pas le RGPD, mais certains décident d'étendre le RGPD, de l'appliquer, comme Microsoft par exemple, à l'intégralité de leurs utilisateurs.
Ça veut dire, oui, donc ça peut faire vraiment tache d'huile. En tout cas, depuis quelques semaines, beaucoup de sites web, d'applications ont envoyé à leurs utilisateurs leurs nouvelles conditions d'utilisation. Il faut les accepter pour poursuivre notre navigation. Alors, je ne sais pas lequel de nos auditeurs ont pris le temps de lire toutes ces petites lignes. Charles-Olivier Diebold, je suppose que vous l'avez envoyé à vos clients. Qu'est-ce que disent ces conditions? Est-ce qu'elles expliquent justement le contenu de cette nouvelle loi?
Alors, nos clients sont des professionnels. On travaille alors beaucoup, par exemple, avec des experts comptables ou des avocats. Donc, ils sont supposés être informés déjà de la teneur de la loi, ce qui n'est pas forcément une réalité systématiquement. Le RGPD, ça fait 2 ans qu'il est en théorie applicable. Et par contre, il devient imposable, entre guillemets, à partir de demain, effectivement. Nous, on a une responsabilité en tant qu'entreprise sous-traitant de nos clients entreprises, c'est de se mettre en conformité et d'expliquer ce qu'on fait. Donc c'est la grosse valeur ajoutée en fait de ce qui est fait aujourd'hui, c'est que on donne une transparence sur la façon dont les données sont traitées. Je dois expliquer de façon systématique qui sont mes sous-traitants, comment est-ce que dans tous les traitements qu'on réalise pour le compte de nos clients, comment est-ce qu'on assure cette conformité, cette protection de la donnée.
Lucien Castex, est-ce que cette réglementation européenne était nécessaire? Est-ce qu'on en avait besoin?
Alors on en avait besoin parce qu'elle permet quelque part de changer le paradigme. On passe d'un régime, d'une certaine manière, d'autorisation préalable à un régime de responsabilisation, c'est-à-dire quelque part un contrôle a posteriori. L'entreprise gère ces traitements, l'entreprise utilise un certain nombre d'outils, un registre, une analyse d'impact, etc., pour se mettre en conformité, et ensuite, elle est en mesure de démontrer cette conformité a posteriori. C'est-à-dire que c'est vraiment un changement de paradigme. Pour le citoyen ensuite, c'est la capacité à redonner confiance aux citoyens et à vraiment baser le raisonnement sur le consentement.
Pour vous, Charles-Olivier Dibol, puisque les données sont au cœur de votre métier, ça répondait vraiment à une problématique, peut-être que vous avez déjà rencontré d'ailleurs dans votre carrière.
Alors, ça répond clairement à une problématique aujourd'hui, si une société comme la mienne existe, c'est que on est parti du constat qu'aujourd'hui, beaucoup de données circulaient sans aucun contrôle, sans aucune garantie. Typiquement, quand on a vu et on voit encore des données économiques d'entreprise, des bulletins de salaire qui circulent par exemple sur des solutions grand public, gratuites, sans garantie finalement. C'est de là en fait qu'on est parti pour apporter une légitimité à ce qu'on fait. Donc clairement finalement, si on fait un parallèle avec ce qui s'est passé dans l'histoire avec la voiture, à un moment donné, il a fallu mettre un code de la route. Donc là, la généralisation de l'usage du numérique fait que on arrive et finalement, nous on est fabricants d'outils de signalisation quelque part, et on vient faciliter la responsabilisation et puis la lisibilité encore une fois de la façon dont ces données sont utilisées.
Lorsqu'on parle de dérives, quand on parle de données personnelles, évidemment on pense à des failles comme celles qui ont conduit au scandale Cambridge Analytica, la fuite des données de dizaines de milliers d'utilisateurs de Facebook. Le patron du réseau social a fait son mea culpa cette semaine devant le Parlement européen. Écoutez-le.
We haven't done enough. Nous n'avons pas assez fait pour empêcher que les outils que nous avons créés soient aussi utilisés à de mauvaises fins. Nous n'avons pas adopté une vision assez large de notre responsabilité. C'était une erreur et j'en suis désolé. Cela prendra du temps d'opérer tous les changements nécessaires, mais je m'engage à le faire vraiment. Par conséquent, je m'attends à ce que notre rentabilité soit fortement affectée, mais je veux être clair, assurer la sécurité des gens sera toujours plus important que maximiser nos profits.
On va en venir évidemment au contenu de cette réglementation européenne, mais Lucien Castex, en deux mots, est-ce que la réglementation RGPD peut éviter des scandales comme celui de Cambridge Analytica en Europe ?
Alors, est-ce que le RGPD peut éviter des scandales ? Sans doute, est-ce qu'il permet de responsabiliser les entreprises ? Et peut-être sur cette responsabilisation, peut-être due aux sanctions particulières qu'il y a, peut-être due à un certain nombre d'outils, notamment en France, comme l'action de groupe, qui donc est poussée par le RGPD, eh bien, ça permet de responsabiliser l'entreprise et dès lors de la pousser dans la bonne direction, dans la poussée vers une considération réelle de gouvernance des données et dès lors vers des bonnes pratiques.
Et donc des scandales comme ça peuvent être évités.
Alors,
ou limités ?
Limités, je dirais.
Limités. Alors pour le contenu maintenant, les sociétés publiques ou privées devront demander à leurs utilisateurs si elles peuvent se servir des données qu'on leur donne. Elles devront aussi justifier du bien fondé de cette collecte. En gros, si les données leur sont vraiment utiles. Cela veut dire que votre société, par exemple, Charles-Olivier Dibol, doit savoir exactement de quelles données elle dispose, d'où elles proviennent.
Alors, en l'occurrence, dans notre cas, c'est avant tout, on est sous-traitant, hein, donc c'est une notion qui est peut-être un peu plus compliquée pour les auditeurs, mais l'idée est de dire, prenons l'exemple d'un de mes clients, typiquement un expert comptable. Son client, entrepreneur, va lui confier la réalisation de bulletins de salaire. Pour réaliser des bulletins de salaire, je vais avoir besoin d'un niveau de rémunération avec l'évolution de la réglementation au 1er janvier prochain et l'imposition à la source. Je vais aussi devoir fournir la tranche d'imposition de mon salarié. Nécessairement, j'ai de la donnée vraiment sensible. Donc, eux, déjà, à leur niveau, ont le droit de traiter cette donnée dans la mesure où ils ont une lettre de mission qui justifie de l'acquisition de cette donnée. Donc, à ce niveau-là, ça existe. Nous, derrière, on a des contrats qui effectivement vont dire vous devez vous engager, vous qui me sous-traitez ensuite le fait de véhiculer cette donnée, je sais que vous êtes un professionnel qui avait des lettres de mission, qui vous donne le droit de faire ça, donc quelque part la donnée que moi je récupère, je suis conscient de sa teneur, et je dois m'engager du coup à mon niveau, à m'assurer de cette transparence, de cette sécurité de la donnée.
Et ça veut dire que vous ne pouvez pas avoir en votre possession des données dont vous n'auriez pas une utilité professionnelle.
Absolument.
Ça veut dire aussi que l'entreprise, et par exemple donc Charles-Olivier Diebold, Lucien Castex, est responsable de la protection de ces données en cas de vol, par exemple. C'était pas le cas avant ?
Alors, ce qui change peut-être avec le RGPD, c'est la responsabilisation de l'entreprise qui, lorsqu'il y a une faille ou une fuite de données, eh bien, a l'obligation de notifier. Et avec cette obligation de notification, forcément, d'avertir notamment l'autorité de protection des données, en l'occurrence la CNIL en France, et selon le niveau de gravité de l'infraction ou de la, comment dire, de l'intrusion, eh bien, l'entreprise peut directement avoir à informer l'utilisateur.
Mais alors, cette responsabilité, elle existait avant le RGPD? On pouvait quand même taper sur les doigts d'une entreprise parce qu'elle n'avait pas bien protégé les données personnelles, ou c'est nouveau?
Alors, ça existait, mais ça a été renforcé.
Et normalement, ça devrait avoir plus d'effet. On va en venir évidemment à ce que les sociétés encourent maintenant. L'autre objectif de cette réglementation, c'est aussi la transparence, on l'a déjà évoqué, autour de l'utilisation de nos données. Alexis Transo travaille chez MC2i, cabinet de conseil en informatique.
On voit de plus en plus, quand on navigue sur des sites web, des cookies qui demandent si on accepte les conditions générales et spécifiques d'utilisation. Et les entreprises vont devoir communiquer de plus en plus sur où va l'information, dans quel but, qui va pouvoir l'utiliser pour être le plus transparent possible avec les clients ou en tout cas les personnes qui se connectent à ces sites.
Donc chaque utilisateur pourra demander à une société qui utilise des données, en gros, ce qu'elle sait de nous. Mais une fois qu'on le sait, Charles-Olivier Diebold, qu'est-ce qu'on peut en faire? À quoi ça nous sert de savoir que, par exemple, mon expert comptable connaît mon niveau de rémunération, etc. À quoi ça va me servir, finalement, de savoir ça?
En gros, pas nécessairement à grand-chose, parce que je sais déjà qu'il a accès à cette donnée. Ce que ça donne surtout, c'est la capacité de finalement de pouvoir demander à voir ces données, à savoir où est-ce qu'elle est stockée, comment est-ce qu'elle est stockée, est-ce qu'elle est suffisamment protégée. Donc, dans le cas que vous mentionnez en particulier, on est plus sur cette notion-là, parce que on est quand même dans une notion très professionnelle et très responsabilisée déjà.
Alors, on va prendre un autre exemple. Les réseaux sociaux, peut-être, Lucien Castex. Alors, je peux demander à mon réseau social qu'est-ce qu'il sait de moi, qu'est-ce qu'il en fait, est-ce que c'est important, et finalement, qu'est-ce que je fais de ces informations, moi?
Alors, c'est important, et c'est aussi important au moment où on donne son consentement. Parce que l'une des particularités du RGPD, c'est que le consentement doit être effectif. C'est-à-dire qu'on ne peut pas simplement précocher une case, la personne valide. Il faut vraiment que le consentement soit effectif, c'est-à-dire qu'un acte positif soit émis de la part de l'utilisateur. D'autre part, il faut qu'il soit spécifique et informé au traitement qui sera effectué. Il faut qu'il soit libre. Quelque part, ensuite, pour répondre à votre question, dans le cas d'un réseau social, l'intérêt de connaître les données, c'est potentiellement de pouvoir faire jouer un certain nombre de droits, de pouvoir s'opposer à leur traitement, de pouvoir demander à ce que ce traitement soit limité. Et puis peut-être, on peut mentionner la possibilité de portabilité des données, même si, là encore, on se retrouve avec des données dont on ne sait pas forcément quoi faire.
Un exemple juste très concret de nos droits. Je n'ai pas envie que mes informations soient utilisées par telle ou telle marque, par exemple, ou telle société pour faire de la pub. Qu'est-ce que ça peut être comme exemple concret? Qu'est-ce que je peux faire une fois que je sais que mes données sont utilisées par telle et telle société?
Alors, on peut d'une part s'opposer au traitement, en s'opposant au traitement, c'est-à-dire en mettant fin à son consentement, et donc en interdisant le traitement à l'entreprise en question. Et par ailleurs, puisque vous mentionnez la publicité, il y a des discussions qui sont menées en ce moment au niveau de l'Union européenne sur un autre règlement dans la suite du RGPD qui s'appelle le règlement e-privacy, qui concerne notamment justement les cookies et la manière dont ces cookies peuvent être gérés directement par l'utilisateur, qui pourrait donner son consentement pour les cookies qui sont émis par un site, par exemple le site de RFI, mais qui ne donnerait pas son consentement pour des cookies tiers qui seraient émis par d'autres partenaires commerciaux.
Vous allez être obligé de nous expliquer en deux mots le cookie. Qu'est-ce que c'est?
Alors le cookie, c'est un petit fichier qui est déposé sur l'ordinateur de l'utilisateur lorsque celui-ci utilise un site internet. C'est ce qui vous permet, par exemple, d'être connecté à un site. Vous êtes connecté à un site et le site se souvient que vous êtes venu sur ce site-là et capable de mémoriser une session et capable de savoir également quelle page vous avez visitée. Et le cas échéant, eh bien, si ces données sont communiquées à un certain nombre de tiers, eh bien, ça peut poser des problèmes en termes d'expression du consentement de l'utilisateur, qui ne sait pas forcément qu'en visitant une page web, eh bien, il a donné son consentement au site, par exemple, de l'ISOC, et également peut-être à 4, 5, 6 ou 50 sites tiers qui recueillent donc ces données. Donc il y a vraiment une articulation à ce titre-là du consentement, qui est vraiment la pierre angulaire du RGPD, qui s'associe, mais les négociations sont en cours, avec ce fameux règlement e-privacy.
Les contrevenants, ça c'est la grande nouveauté, pourront payer jusqu'à 4% de leur chiffre d'affaires annuel. C'est une peine assez dissuasive, j'imagine, Charles-Olivier Diebold.
Alors, moi j'ai encore une société relativement petite, donc c'est moins dissuasif à mon niveau. Là où c'est extrêmement rassurant, je dirais, en tant que consommateur, parce qu'on est nécessairement consommateur tout en étant chef d'entreprise, c'est de se dire que, notamment les gros groupes qui ont une forte responsabilité dans tout ça, qui jusque-là étaient globalement assez intouchables, aujourd'hui, c'est le chiffre d'affaires mondial qui est la base de calcul, et le calcul, et je parle sous le contrôle de mon co-présent, ça s'applique de façon automatique. Donc si j'ai contrevenu, c'est hyper rassurant pour des grosses sociétés qui sont de plus en plus en visibilité, et au fur et à mesure que mon chiffre d'affaires de ma société augmente, par la force des choses, je dois faire encore plus attention, même si je dois m'engager déjà à faire attention, mais finalement c'est assez vertueux.
On comprend bien en tout cas en quoi cette réglementation peut être intéressante pour les utilisateurs. Alors comment est-elle perçue maintenant par les sociétés? Godefroy de Benzmann a fondé Devoteam, donc une entreprise spécialisée dans l'intelligence artificielle. Il est aussi à la tête du syndicat Syntec Numérique. Il représente les entreprises françaises de la tech.
Comme on a tous un smartphone à la poche et que maintenant de plus en plus notre vie devient un peu numérique, on prend nos billets sur internet, nos billets de train, on prend nos hôtels, on réserve une nounou, on fait nos achats. Donc tout ça, ça laisse des traces qui créent des données. Donc on peut, dans ces données, les traiter pour en tirer des choses qui sont intéressantes et qui permettent de dire que les jours où la météo est comme ci ou comme ça, la consommation de certains produits dans certaines zones se fait plutôt mieux, et donc ça permet aux entreprises de donner des services différents. Alors, on peut en avoir un peu peur, c'est pour ça que la réglementation européenne sur la protection des données personnelles est importante, mais il n'empêche qu'aujourd'hui, si on le fait, c'est que c'est quand même des usages qui nous vont bien. Donc il faut les maîtriser.
Charles-Olivier Diebold, est-ce que vous partagez cet avis? Est-ce que ça peut être un plus aussi pour les entreprises, une façon aussi de rassurer leurs clients ou leurs potentiels clients qui pourraient être inquiets justement par l'utilisation de leurs données?
Je pense qu'on est... Encore une fois, en tant que consommateur, on est tous un petit peu inquiets de la façon dont les données qu'on transmet, qu'on met à disposition, sont utilisées et sont stockées. Donc, à partir du moment où on me présente des actions qui permettent de renforcer cette sécurité et qu'il y a des sanctions potentiellement qui sont associées, nécessairement, ça me met en sécurité.
Ça peut même peut-être amener aussi les plus réticents à pourquoi pas s'inscrire sur des réseaux sociaux. On connaît beaucoup de gens que ça inquiète de livrer ces données. Pour conclure, Lucien Castex, est-ce que c'est un tournant aussi cette réglementation? On a passé l'ère où on tâtonnait, où on pensait que ces données personnelles n'étaient pas d'une grande richesse.
Alors, ce qui est sûr, c'est que ça permet de donner à l'utilisateur vraiment une vision de ce que sont ces données personnelles et quelque part d'essayer de lui redonner la main sur ces données. Et quelque part également, pour l'entreprise, ça peut se transformer en chance dans la volonté de rétablir quelque part une confiance avec l'utilisateur. C'est un outil de confiance et c'est un changement de paradigme en ce qui concerne les données personnelles.
Est-ce que l'un de vous y voit quand même une limite à cette réglementation, en un mot? S'il avait fallu peut-être l'améliorer encore, Lucien Castex?
Alors en un mot, le problème c'est que c'est une réglementation qui harmonise, mais il y a un certain nombre de points qui ne sont pas harmonisés, j'en citerai deux très rapidement. L'âge du consentement, en France, il a été fixé à 15 ans, il y a d'autres pays qui le fixent à 16 ans. Comment réagir face à cela? Je pense également aux données post-mortem. Certains pays ont un régime spécifique pour les données post-mortem, d'autres n'en ont pas.
On comprend bien qu'un jour, il faudra qu'il y ait une réglementation internationale, mondiale. Merci beaucoup, messieurs. Lucien Castex, chercheur à l'université Sorbonne Nouvelle. Charles-Olivier Diebold, président de My Company Files. Et merci à toute l'équipe de décryptage. Éléonore Krenik, Françoise Delignon, Gérard Perrault et Fabrice Violet à la réalisation.